si le christianisme était quelque part l'anti-individualisme? Comment ne pas se laisser gagner par l'individualisme qu'on décrit et qui est une réalité actuelle? On peut aussi se dire, c'est ce que je me dis en tout cas, que peut-être que l'affaiblissement sociologique de notre Église eh bien, est une perte pour notre société. Si, de fait, le christianisme, l'Évangile, est vraiment l'anti-individualisme. L'individualisme consiste, je crois, à choisir souvent inconsciemment, mais des fois consciemment, par soi-même et pour soi-même, des relations qui plaisent ou celles qui dérangent, des solidarités qu'on engage ou qu'on abandonne selon. Finalement, le petit moi est au centre. Et nous voyons bien que les lois de la République ou un rassemblement du 11 janvier sont impuissants à tenir un tissu social, fraternel, même si un rassemblement comme le 11 janvier nous donne d'espérer et de partager à nouveau cette utopie. Au cœur de cette société, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Mais nous sommes Église, sacrement du salut, et nous sommes appelés, chrétiens, à être signe justement de cette fraternité de fait. On ne se choisit pas, d'une solidarité nécessaire et indéfectible. Et nous sommes invités à en vivre pour en témoigner. Une fraternité de fait. Toutes les cultures continuent de porter cette utopie, qui est résumée d'ailleurs dans un livre de Gandhi, « Tous les hommes sont frères ». La crise écologique souligne dramatiquement cette interdépendance entre tous les hommes et puis même avec toute la création. Mais passer du désir, du fait qu'on est tous frères, à la réalisation, comment cela est-il possible? Voilà, en regardant cet évangile, en méditant cet évangile, je me dis quelle chance nous avons, nous chrétiens, et puis aussi quelle chance que le christianisme pour l'humanité entière, non pas encore que nous soyons meilleurs, mais voilà, nous connaissons Jésus. Car le christianisme, finalement, c'est la réalisation de cette fraternité, de cette solidarité en acte que Jésus est venu accomplir par son incarnation et par sa Pâque. Ce qui l'amène à dire, voilà, la réalité nouvelle qui est la nôtre, la vôtre, je suis la vigne et vous êtes les sarments. C'est comme ça. Vous êtes liés les uns aux autres puisque je suis le cep et vous tous les sarments. Tous les sarments sur une même vigne, tous frères. Dans le Premier Testament, la vigne est le symbole du peuple de Dieu. Et les prophètes ont souvent dénoncé le peu de fruits que porte cette vigne, par son peu d'attachement au commandement de Dieu, par son infidélité au Dieu unique. Mais Dieu, lui, reste toujours fidèle, fidèle à sa vigne, et il ne renoncera jamais à lui faire porter du fruit. Son être même, c'est sa vie partagée, donnée à profusion. À tel point qu'il va devenir lui-même la vigne en Jésus, uni à son peuple comme le cep au sarment. Une même vigne, une même vie, une même fécondité. Je suis la vigne, dit Jésus, et vous êtes les sarments. Vous êtes de fait unis les uns aux autres, parce que vous êtes unis à moi. Jésus, dans sa prière avant sa mort, dira à son Père, ou a dit à son Père, qu'il soit un comme nous sommes un, Père, toi en moi et moi en toi. Il a dit aussi, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous sauront que vous êtes mes disciples. Alors nous dit Jésus aujourd'hui, demeurez en moi. Et Jésus, par la lettre de Jean, et par cet évangile, nous donne peut-être aujourd'hui des clés pour vivre cette fraternité à laquelle nous tenons tant. La première clé, je crois, c'est demeurer. Demeurer en moi, comme moi en vous. C'est d'abord une révélation, ce n'est pas d'abord un effort que nous avons à faire. Jésus nous dit, je suis en toi, et toi, tu es en moi, sois en moi, demeure en moi, que mes paroles demeurent en toi, en vous, pour que vous portiez du fruit. C'est extraordinaire. Jésus, c'est nous, nous, c'est Jésus. Demeurer en lui, c'est être en Dieu, partageant son intimité et la fécondité même de Dieu. Alors, laissons-nous faire. Prenons simplement peut-être conscience de ce que nous sommes et soyons-le. Taillons peut-être aussi dans nos vies pour que cette demeure soit de plus en plus une réalité. Sachant que demeurer en lui, c'est tout sauf quelque chose de statique. Une demeure, on a l'impression qu'on va se poser, quoi. Voilà. Non, demeurer en Jésus, c'est se laisser nourrir et mouvoir par la sève même de vie qui habite notre Dieu. De même que le sarment ne peut porter du fruit par lui-même, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Demeurer en Jésus, c'est devenir vivant et vivifiant. Alors je me dis peut-être que deux fruits nous sont donnés ce matin. Deux fruits, oui, de cette vigne pour que nous vivions davantage et soyons avec Dieu plus féconds encore. C'est des choses tellement simples que j'hésite à les redire. Le premier, c'est l'amour. Si nous laissons circuler la sève de l'Esprit entre Jésus et nous, Paul nous dit en Romains 5 que l'amour même de Dieu est répandu dans nos cœurs. Notre lien à Jésus rend vivant les liens entre nous. La fraternité se déploie parce que l'amour de Dieu est vraiment répandu au fond de nos cœurs. Non pas une fraternité idéale, ni, comme le disait saint Jean, une fraternité dans les mots, de paroles, mais une fraternité en actes et en vérité. C'est-à-dire un amour qui nous amène progressivement à accueillir les autres toujours différents. Mais aussi un amour qui nous amène à approfondir la différence de ceux avec qui nous vivons. Ce n'est pas un amour de surface, c'est un amour qui se creuse et qui, dans une vraie attention à l'autre, s'exprime progressivement dans les actes et en vérité, dans les actes avec plus de vérité. Le second fruit, je me disais, c'est peut-être la vraie prière. Présomptueux de dire ça. Pourquoi je dis vraie prière ? Parce que je suis frappé que dans les deux textes de Jean aujourd'hui, voilà ce qui nous est dit. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons. Et puis dans l'Évangile, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. C'est pour ça que je parle de vraie prière. Une prière efficace, féconde. Oui, parce que finalement, la vraie prière, c'est celle qu'on peut faire quand on est vraiment relié au CEP. C'est la prière que l'Esprit Saint fait jaillir dans nos cœurs, cet Esprit qui nous met peu à peu à l'unisson du cœur de Dieu, à l'unisson de la volonté de Dieu, qui nous met en communion avec cette communion entre le Père et le Fils, et qui fait que nous sommes capables de demander ce que Dieu veut, d'avoir un désir qui est le désir de Dieu, le désir du bien, le désir de la vie, cette vie venant du Père qui, voilà, peut couler, se communiquer à tous. L'Esprit nous associe à la prière de Dieu. Il nous donne de vouloir ce que Dieu veut et de nous livrer humblement avec ce que nous sommes pour accomplir aussi ce qu'il veut de nous. Finalement, la prière vraie, c'est peut-être l'anticipation de ce que Dieu est en train de réaliser, de ces relations nouvelles qu'on appelle fraternité, solidarité. Et notre prière est vraie parce que nous devenons capables de donner tout ce que nous sommes au service de cet amour incarné de Dieu. Voilà, la fraternité entre les hommes, elle est cette grâce qui coule de notre relation au Christ. Il est important de se redire que plus les hommes sont frères, plus Dieu est glorifié. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, des fruits d'amour qui se réalisent en actes et en vérité.